Heureux de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue à votre Carrefour Science et Santé. Eric Manilakiza avec vous pour passer en revue les nouvelles technologies pour vous promener dans l'espace, sans oublier de parler de notre santé. La vie est en quelque sorte un pèlerinage. Je voudrais faire mienne cette pensée de Platon pour dire que Carrefour Science et Santé est aussi, en quelque sorte, un pèlerinage. Et c'est parti avec notre pèlerinage. L'avion solaire Solar Impulse a décollé lundi matin près de San Francisco, en Californie, aux États-Unis. C'est sa 10e étape pour un tour du monde à base de batteries nourries uniquement d'énergie solaire. Maëlys Segel a d'autres détails sur cette aventure.
Cet appareil expérimental révolutionnaire est piloté par le Suisse André Boschberg, qui a notamment survolé le désert de Mojave afin de recharger ses batteries. Un tour du monde bien périlleux, puisqu'en cas de manque de soleil, l'avion peut ne plus marcher. Il a décollé le 9 mars 2015 d'Abu Dhabi et est déjà passé par l'Inde, la Birmanie, la Chine, le Japon, et puis il a traversé l'océan océanique afin d'atterrir à San Francisco. Au cours de la première partie de cette grande traversée océanique entre Nagoya et Hawaï, l'avion Solar Impulse 2 avait battu le record du plus long vol par un avion. André Boschberg avait piloté durant 5 jours et 5 nuits consécutifs, soit 117 heures au total, ce qui avait posé quelques problèmes. En effet, les batteries de l'appareil avaient surchauffé et l'avion a ainsi dû faire une longue escale technique de près de 10 mois à Hawaï pour régler ses problèmes de batterie avant de pouvoir repartir il y a une dizaine de jours. Ces batteries se rechargent grâce à plus de 17 000 cellules photovoltaïques installé sur les ailes de l'avion qui capte l'énergie solaire. L'avion est équipé de 4 hélices et il vole assez doucement, environ 45 km/h. Le but de ce tour du monde est de montrer que si un avion peut voler nuit et jour sans essence, il est possible d'utiliser cette technologie verte pour développer de nouveaux marchés industriels et stimuler la croissance économique tout en protégeant l'environnement.
Merci Maëlys de continuer à t'informer pour nous et surtout, l'on attend l'arrivée à destination du Solar Impulse, une belle aventure que VOA Afrique réserve à ses fidèles auditeurs. Découvrons à présent un trio de planètes potentiellement habitables. Nicolas Pinault, qui a décortiqué une étude publiée lundi dans Nature, explique que ces trois exoplanètes ont été découvertes en orbite d'une petite étoile et offrent pour la première fois la possibilité de trouver des traces chimiques de vie en dehors de notre système solaire.
Ce trio planétaire qui transite autour d'une étoile naine ultra-froide est comparable en taille et en température à la Terre et à Vénus. Une équipe internationale de chercheurs menée par Michael Guillon de l'Université belge de Liège a débusqué ce trio à environ 39 années-lumière de la Terre, soit une distance proche de la Terre en espace astronomique. D'après l'astrophysicien Guillon, ces planètes sont les premières opportunités de trouver des traces chimiques de la vie en dehors de notre système solaire. Elles réunissent trois caractéristiques exceptionnelles nécessaires à la recherche de traces de vie. Elles sont de taille similaire à la Terre, potentiellement habitable, et propices aux études atmosphériques détaillées avec la technologie actuelle, puisqu'elles ne sont pas trop éloignées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas que des planètes telluriques similaires à la Terre pouvaient orbiter autour d'une étoile naine, a expliqué le chercheur. Grâce à l'étoile TRAPPIST-1, on sait que c'est le cas, a-t-il souligné. Jusqu'à présent, la recherche d'exoplanètes habitables se focalisait autour d'étoiles plus grosses, plus semblables à la plus connue d'entre elles, le Soleil.
Notre pèlerinage continue avec la mission ExoMars 2018, reportée en 2020. C'est la deuxième mission du genre. L'agence spatiale européenne ESA, dans un communiqué, a donné lundi une seule raison de ce report. Il s'agit des retards pris, comme l'explique Lionel Gahima.
Selon le communiqué, c'est après avoir examiné tous les scénarios proposés pour assurer la réussite de la mission et compte tenu des retards pris par les activités industrielles européennes et russes ainsi que les livraisons relatives à la charge utile scientifique que le comité directeur ExoMars conjoint a conclu que la meilleure solution consiste à reporter la mission au prochain créneau de lancement vers Mars en juillet 2020. ExoMars 2020 permettra d'envoyer un robot forer le sol de Mars jusqu'à 2 mètres de profondeur et prélever des échantillons qui seront analysés sur place. Il explorera une zone où se trouvent des argiles très anciennes. Les scientifiques espèrent trouver grâce à elles des traces de vie passée sur Mars. L'espoir est de trouver des traces de molécules organiques qui auraient pu se trouver sur Mars il y a environ 4 milliards d'années, lorsque sa surface ressemble plus ou moins à celle de la Terre, au moment où la vie est apparue sur notre planète. C'est la deuxième fois que l'Europe part à l'assaut de la planète rouge. En 2003, elle a lancé avec succès Mars Express, qui a rempli sa mission scientifique. En mars dernier, la mission russo-européenne ExoMars 2016 a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour, permettant à l'Europe de renouer avec l'aventure martienne. Une fusée russe Proton a expédié dans l'espace une sonde capable de détecter des gaz à l'état de trace, baptisée TGO, Trace Gas Orbiter, et d'un atterrisseur test nommé Schiaparelli. Les deux éléments doivent arriver à destination en octobre 2016.
Carrefour Science et Santé continue sur VOA Afrique et voaafrique.com. Eric Manirakiza en votre compagnie. Abordons les conséquences de la fumée de cuisson à bois. Le constat est fait par Darren Taylor à Johannesburg. En effet, la pollution des ménages tue plus que de 4 millions de personnes chaque année. Et la plupart de ces décès sont enregistrés dans les pays en développement, principalement en Afrique. Beaucoup de gens meurent de l'inhalation de la fumée de cuisson à bois ou à four à charbon. Pour répondre à ce défi, un couple d'inventeurs en Afrique du Sud ont apporté quelques améliorations à la technologie. Ils proposent les fours solaires comme réponse. Nani Talani a les détails.
Le puissant technologue solaire Crosby Menzies déplace un grand cadre métallique au bureau de la société Sunfire à Johannesburg. Un panneau de 48 miroirs longs d'environ un pied chacun est attaché au cadre.
It's 4 square meters of mirrors.
Il est composé de 4 mètres carrés de miroirs et long de 6 à 8 mètres. C'est un très grand cuiseur. Nous sommes très heureux d'avoir construit le premier cuiseur en Afrique du Sud.
Le partenaire de Menzies, Zonder Van Manen, incline les miroirs avec un levier jusqu'à ce qu'il fasse rebondir la lumière du soleil sur une autre dalle de miroir dans une casserole. En 2 minutes, la lumière du soleil chauffe tellement la casserole que les saucisses et les oignons se mettent à grésiller. Menzies dit que le cuiseur solaire Sol 4 est spécial car il génère très rapidement une chaleur extrême.
In 4 minutes, you'll have boiling water.
En 4 minutes, vous avez l'eau bouillante. Il est en fait comparable à la cuisson au gaz ou à l'électricité.
Il dit que le dispositif est beaucoup plus convivial que d'autres fours solaires qui obligent les gens à rester sous la chaleur du soleil. Le Sol 4 permet aux utilisateurs de faire cuire à l'ombre, sur une table, avec juste les miroirs positionnés au soleil. Menzies affirme que toutes les fois qu'il montre ses cuiseurs solaires, les gens doutent que ces appareils travaillent jusqu'à ce qu'ils voient le soleil cuire leur nourriture. Ensuite, la nouvelle se répand.
Nous avons littéralement produit des centaines de ces cuiseurs solaires en Afrique du Sud. Nous avons un projet en vue au Mali, en Éthiopie et en Ouganda. Je viens de démontrer le Sol 4 en Zambie. La technologie est vraiment viable. Beaucoup de gens ne savent toujours pas que cela fonctionne. Et nous travaillons aussi dur que nous pouvons pour changer cela.
Il déclare que l'attraction majeure pour les gens, c'est la préparation des repas avec le soleil, parce que cela signifie qu'ils n'ont plus à ramasser du bois, à acheter du charbon qui coûte cher ou de la paraffine pour cuisiner. Ils sont donc beaucoup moins susceptibles d'attraper des maladies respiratoires potentiellement fatales. Le Sol 4 est aussi capable de cuisiner pour beaucoup de gens à la fois.
Étant donné que c'est si grand, ce n'est pas le genre de modèle que vous voulez trop souvent déplacer. Il s'agit plus d'une installation permanente et les endroits où l'on voit jour après jour un besoin permanent pour la cuisson sont des écoles, des orphelinats, des maisons de retraite, ainsi que des lieux où il y a un besoin pour la cuisine à grande échelle, tels que des soupes populaires ou des groupes religieux.
Van Manen dit qu'à l'heure actuelle, la cuisinière ne fonctionne que si le soleil brille. Mais il travaille actuellement sur quelque chose qu'il appelle pierre magique, une dalle de sel comprimée.
This would be at the end of the day our battery.
Ce sera la fin de la journée de notre batterie, si je peux parler ainsi. Ce que cela va faire, c'est qu'il prendra la lumière du soleil stocké, qui va stocker sous forme de chaleur. Ensuite, vous pouvez la mettre dans un sac qui retient la chaleur ou dans un espace de rétention de la chaleur. Puis à chaque fois que vous en avez besoin, la nuit, vous pouvez le sortir et il va répandre la chaleur avec laquelle vous pouvez cuire ou faire bouillir l'eau.
Vous finiriez essentiellement avec une plaque chauffante mobile. Chaque cuiseur coûte plus de 2 000 $, ce qui le met hors de portée de la plupart des Africains. Mais Menzies dit que les ONG, à travers le continent, interviennent pour financer le Sol 4 pour les groupes vulnérables.
Cap sur l'Éthiopie, le pays qui traverse sa pire sécheresse depuis des décennies, fait face à une pénurie alimentaire. Les enfants les plus vulnérables tombent malades et ne peuvent plus aller à l'école. Dans la ville de Matara, dans le centre du pays, la plupart des citoyens dépendent de l'aide humanitaire. Marthe van der Wolf est partie à leur rencontre, mais le récit est raconté par Tatiana Mosso.
Plus de 10 millions d'Éthiopiens ont besoin d'aide alimentaire d'urgence en raison de la sécheresse. Beriti Yawas a été admise à la clinique avec son enfant de 3 ans.
Mon bébé est tombé malade parce qu'il n'y a pas de nourriture.
Tout le bétail est mort, du coup les enfants ont cessé d'aller à l'école pour aider leur famille. Le gouvernement éthiopien collabore avec les organisations humanitaires en fournissant de la nourriture à quelques 6 millions d'enfants.
Les enfants exposés à la malnutrition et à la famine risquent d'avoir un développement lent du cerveau, endommager leur capacité de réflexion. Cela peut aussi aggraver la diarrhée.
Plus de 800 millions de dollars d'aide d'urgence ont été alloués, mais le gouvernement éthiopien et l'Organisation des Nations Unies estiment qu'il faudra 1,4 milliard cette année. La majeure partie de ces fonds servira à fournir de la nourriture. Pour Alko Boultoum, l'aide humanitaire est le seul moyen de nourrir ses 6 enfants.
Avec la sécheresse, tout ce que nous avons, c'est le soutien du gouvernement. Nous n'avons rien à la maison, nous n'avons rien pour nourrir nos enfants, nous n'avons pas d'eau potable non plus.
L'aide alimentaire sera nécessaire en 2017 en Éthiopie et dans d'autres régions d'Afrique orientale et australe, également touchées par la sécheresse. Une situation qui serait causée par le phénomène El Niño.
De l'Éthiopie, Bagassi Koura nous promène sur les plages au Sénégal, une illustration d'un défi majeur de la santé de la planète. Mais de quoi s'agit-il? Les stations balnéaires du pays perdent du terrain et avec elles, l'argent des touristes. Et le problème ne s'arrête pas là.
Les données du gouvernement indiquent que l'érosion côtière fait perdre chaque année 1 à 2 cm de plage. Selon Papa Gumbolo, chef du Centre national de recherche du Sénégal, ce n'est pas toujours lié au changement climatique.
Il y a aussi le fait qu'on aménage mal, en général, les côtes. C'est-à-dire qu'il y a des dunes qui sont exploitées abusivement, il y a des maisons qui sont construites là où il ne fallait pas, ou bien sans respecter les normes. Donc, en gros, on peut dire que c'est l'interaction entre la nature qui s'exprime naturellement et l'homme qui ne respecte pas la nature.
Les amateurs de plage dans le passé ont afflué par centaines de milliers vers les côtes sénégalaises et le tourisme faisait environ 11% de l'économie. Mais les experts prédisent que le Sénégal pourrait perdre cet avantage.
Comme disait Jules Renard, la gloire, c'est d'abord une belle plage, c'est un bijou que les Sénégalais doivent protéger. Ce n'est pas tout, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Il y a aussi les éléphants à protéger. Le Kenya a montré l'exemple, un message fort envoyé au monde entier. Le président Uhuru Kenyatta a brûlé la plus grande quantité d'ivoire jamais détruite dans l'histoire. Un sommet anti-braconnage de 3 jours a eu lieu au Parc national de Nairobi. Jill Craig était là et son compte-rendu nous est présenté par Maëlys Seguel.
Les éléphants sont des symboles de l'Afrique, mais le braconnage met leur existence en danger. Le président Uhuru Kenyatta vient de tenir un sommet contre le braconnage. Chaque année, des dizaines de milliers d'éléphants sont tués pour leur défense en ivoire. Le fondateur de Save the Elephants, Ian Douglas Hamilton, réagit à la tenue de ce sommet à Nairobi.
Ultimately, a lot of decisions in Africa get taken at presidential level.
En fin de compte, beaucoup de décisions en Afrique sont prises au niveau présidentiel.
Si le président ne soutient pas le mouvement, ça ne marchera pas.
Outre les chefs d'État, le sommet de 3 jours a accueilli des écologistes, des diplomates, des célébrités, pour voir comment mettre fin au braconnage. Les donateurs ont promis plus de 5 millions de dollars pour protéger les éléphants au Kenya, au Gabon, en Ouganda et au Botswana. Ces fonds serviront à la construction de clôtures électrifiées et à la mise en place d'aires protégées. John Abouor de l'ONG Espace pour les Géants.
Je
crois que cela va envoyer un message au reste de l'Afrique. Ce qu'ont fait les présidents du Gabon, du Kenya et de l'Ouganda a été un exemple.
D'autres, comme Rod Potter, qui travaille sur les effets du braconnage, demeurent sceptiques.
Oui, je pense que cela va servir à quelque chose, mais je ne pense pas que ce sera aussi efficace que nous l'aurions voulu.
Le Kenya a fait brûler 105 tonnes d'ivoire et 1,35 tonnes de cornes de rhinocéros. Le président Kenyatta a promis son soutien pour l'interdiction totale du commerce de l'ivoire. Peter Knight de l'ONG Wild Aid.
We've tried this two times in the 1980s. We were trying to sell ivory legally.
Dans les années 1980, nous avons essayé de vendre de l'ivoire légalement, avec un commerce réglementé. Résultat, nous avons perdu la moitié des éléphants d'Afrique. Nous sommes passés de 1,3 million à 600 000 éléphants. On a arrêté ce commerce en 1989 et le braconnage a diminué. En 2009, 70 tonnes d'ivoire ont été vendues à la Chine et soudain, le braconnage est remonté à nouveau. Donc, on ne peut pas retourner à ce marché, tout comme on ne peut pas ramener l'héroïne sur le marché.
Ce sommet et la destruction de ces tonnes d'ivoire ont permis d'envoyer un message fort au monde entier. L'ivoire n'a pas de valeur, mais la vie des éléphants n'a pas de prix.
Dans la page santé, l'Angola a fait face à une explosion de cas de fièvre jaune et le vaccin se fait rare. Des cas sont également signalés en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda et en Chine. Une propagation de la maladie qui inquiète d'autant qu'il n'y a pas de traitement. La vaccination est le seul moyen pour se prémunir, mais fabriquer un vaccin n'est pas une chose aisée. Chérubin Dorsil Digabi nous en dit plus.
L'Institut Pasteur de Dakar est l'un des 4 centres de production du vaccin contre la fièvre jaune dans le monde. Derrière ces murs aseptisés, à travers des baies vitrées, on peut voir des techniciens s'activer dans des labos sous leurs masques de protection. Chaque semaine, un carton spécial d'œufs de poule arrive d'Allemagne. Première étape, les chercheurs doivent injecter dans chaque œuf le virus, puis suivront des semaines d'incubation, d'extraction, de mélange et d'autres tests. Fabriquer un vaccin peut prendre 6 mois. 80 millions de doses sont produites chaque année dans le monde, dont 10 millions à l'Institut Pasteur de Dakar. Antoine-Marie Diatta y dirige l'équipe de production.
On est en capacité de produire une certaine quantité de vaccins, mais malheureusement, ça ne peut pas atteindre le besoin mondial en vaccins. Et même pour les autres fabricants aussi, ceci est pareil. Et quand il s'agit de la production de routine, pour les campagnes de routine, ça pose aucun problème. Mais le plus gros problème, c'est quand il s'agit d'épidémie. Parce que là, effectivement, il y a un besoin immédiat de vaccins pour vacciner un grand nombre de personnes. Et malheureusement, ceci pose souvent problème. Il y a un problème de disponibilité de vaccins.
Il est difficile de prévoir le besoin en vaccins contre la fièvre jaune. Celui-ci peut être conservé pendant 3 ans et les fabricants ne peuvent se payer le luxe d'une surproduction. Antoine-Marie Diatta explique.
Le stockage du vaccin pour le producteur, ce n'est pas intéressant. Ça nécessite effectivement que vous disposiez de chambres de stockage très importantes quand le vaccin n'est pas utilisé. Et deuxièmement, vous stockez de l'argent. Parce que si le vaccin n'est pas utilisé, alors que vous injectez de l'argent et vous attendez des retombées, ce n'est pas facile. Donc ça veut dire que vous allez investir, vous thésaurisez votre argent et vous êtes là, vous attendez. Sachant que vous devez faire face quand même à un certain nombre d'investissements, à un certain nombre, vous attendez quand même à une certaine retombée, parce que les salaires, il faut les payer, les équipements, il faut les renouveler.
Endémique dans 34 pays africains, la fièvre jaune se transmet par piqûre de moustique. Une seule dose de vaccin peut vous protéger à vie. Pour Samson Agbo, chef d'un programme de l'UNICEF en Angola, 80% de personnes vivant dans les zones à haut risque doivent être vaccinées. Mais dans beaucoup de régions du continent, le taux de vaccination se situe en dessous des 60%.
Les pays à haut risque sont connus. Idéalement, ils devraient avoir de très solides programmes de vaccination, c'est-à-dire ceux touchant chaque enfant. Nous devons investir davantage si nous voulons prévenir des situations comme cette sorte d'épidémie, dit-il. Près de 2000 cas ont été signalés en Angola depuis octobre 2015. Une campagne d'immunisation a été lancée en février avec 16 millions de doses de vaccins. Cela a aidé à ralentir la propagation de la maladie, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévient que si la fièvre jaune se répand dans d'autres pays, les stocks de vaccins ne suffiront pas et des millions de personnes seront exposées à cette maladie incurable. Tariq Yassarevitch, porte-parole de l'OMS à Genève. Nous devons nous assurer, dit-il, qu'il y ait assez de fonds et nous travaillons avec les fabricants pour voir comment augmenter la production. Certains nous ont assuré qu'ils peuvent augmenter leur production. Nous avons refait nos stocks et espérons pouvoir contenir l'épidémie en Angola de sorte qu'il n'y ait pas besoin de doses additionnelles que nous n'aurions pas. Les trois autres laboratoires fournissant un vaccin contre la fièvre jaune sont en Russie, en France et au Brésil. L'Institut Pasteur veut ouvrir d'ici 2020 un nouveau site dans la banlieue de Dakar pour augmenter sa capacité de production.
Pour terminer, Nathalie Barge nous parle des espèces sur Terre. Nous connaissons à peine 1/1% des espèces sur Terre, selon une étude visant à calculer le nombre d'espèces microbiennes sur la planète.
Des chercheurs de l'Université d'Indiana à Bloomington ont tiré leurs conclusions à partir de l'observation de bases de données microbiennes végétales et animales. L'estimation du nombre d'espèces sur Terre est parmi les grands défis de la biologie, a déclaré Jay Lennon, l'un des chercheurs. Ces chercheurs affirment que pour la vie des animaux et des plantes, ce qu'on appelle les lois d'échelle peut être utilisé pour estimer avec précision le nombre d'espèces. Cela se fait en évaluant la quantité de nourriture et d'autres éléments essentiels pour maintenir en vie un organisme. De nombreuses estimations précédentes ont simplement ignoré la vie microbienne, notamment des bactéries et organismes unicellulaires, ou utilisé des méthodes de calcul douteuses. Mais les lois d'échelle peuvent également être utilisées pour les microbes, selon les scientifiques, ce qui entraîne l'estimation d'une hausse de 1 trillion d'espèces, a déclaré Kenneth Lossy, co-auteur de l'étude. Identifier toute la vie microbienne sur Terre sera un énorme défi, étant donné que le projet Microbiome Terre, un effort mondial pour identifier les microbes, a seulement identifié quelques 100 millions d'espèces. Parmi les espèces répertoriées, seulement 10 000 ont déjà été cultivées en laboratoire et moins de 100 000 ont des séquences classifiées, a déclaré le docteur Lennon, qui affirme qu'il y aurait 100 000 fois plus de micro-organismes à découvrir.
Merci à Nathalie Barge qui boucle notre pèlerinage d'aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, Carrefour Science et Santé voudrait se joindre à vous tous amateurs de la musique et en particulier à tous les Congolais pour rendre hommage, un hommage vibrant à Papa Wemba. Nous vous proposons un de ses morceaux. Viva la musica, Mofude Yampela. Et c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.
Bienvenue à bord.